Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chien Nibiri.
Halo de Mondi.
Chien Nibiri. Sigi Kafoba.
Vendredi 3 mars, auditeurs, téléspectateurs, merci d'être avec nous pour ce forum de la presse. L'installation des autorités intérimaires dans les régions du Nord a commencé. Kidal, Menaka, Gao déjà installés malgré la tension. La conférence d'entente nationale pourra-t-elle se tenir ce mois de mars? Une nouvelle alliance entre les groupes djihadistes qui opèrent au nord du Mali également, on va en parler dans ce forum de la presse. Le Mali qui reste le pays le plus dangereux pour le personnel des Nations Unies avec 23 personnes tuées. Voici mesdames et messieurs quelques thèmes que nous avons pour vous pour ce forum de la presse. Nos invités sont Mahamadou Kan de la radio Clédou, Célia Dalmeida du journal du Mali et Yoroso de l'Inter de Bamako. Je suis Ousmane Diadié Touré pour vous présenter cette émission qui est mise en onde par Salim Diouara.
Le Grand Dialogue.
Après l'installation du président de l'autorité intérimaire de Kidal, ceux de Gao, de Menaka ont été investis hier jeudi. Après quelques moments d'incertitude, les autorités intérimaires de Gao ont pu être installées. Les mouvements armés et la société civile qui s'opposaient à leur mise en place sont finalement parvenus à un accord avec les autorités locales. Tombouctou et Taoudeni sont donc prévus pour lundi. Tombouctou qui était prévu pour aujourd'hui, mais finalement qui a été remis à lundi. Célia Dalmeida du journal du Mali, est-ce que ce n'est pas un signal fort que l'installation de ces autorités intérimaires ait débuté à Kidal?
Oui, merci de m'avoir invité. Bonsoir à vos auditeurs et téléspectateurs. Bien entendu, c'est un signal très positif dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Que Kidal, particulièrement, ait ouvert le bal, ça a tout son sens, ça a tout son poids dans la balance des jeux que nous vivons depuis 5 ans maintenant au Mali. Et donc, je pense que c'est quelque chose de positif maintenant. Il va falloir transformer l'essai. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, le climat est toujours très tendu. Donc il va falloir observer dans les jours, les semaines à venir pour voir comment ces autorités-là prennent réellement fonction. Parce qu'on l'a dit, ça faisait longtemps que le drapeau malien n'avait pas été déployé dans cette ville et ça a été le cas, même si c'était pour quelques heures il y a 2 jours. Donc je pense que c'est un signal positif effectivement. En fait, c'est maintenant que le travail commence.
Merci, Yoroso de l'Inter de Bamako. On a l'hymne national malien qui retentit à Kidal. Célia l'a dit, le drapeau malien qui a flotté à Kidal, c'est quand même un signal fort.
Ok, merci de m'avoir invité. Moi, je pense que ça, c'est un contre-pied à l'accord. Voilà, l'accord disait que les autorités du Mali allaient être à Kidal progressivement. On prend le contre-pied de ça pour venir installer les autorités intérimaires. Voilà, si vous regardez un peu les villes dans lesquelles les autorités intérimaires ont été installées, il y a toute une tension autour de ça. Ça veut dire que la population n'a pas adhéré à cette installation des autorités. On ne peut pas comprendre.
Pour une fois, à Kidal, il n'y a pas eu de tension justement pour l'installation de ces autorités.
Oui, mais les ténors de Kidal n'ont pas assisté à la cérémonie. Intala n'était pas présent.
Intala était à Bamako.
Ah, mais c'est un signal fort. Eux, c'est Kidal. Kidal appartient à eux. S'il n'est pas présent, il y a Anguille Souros.
On va dire la commune urbaine de Kidal, pas la région de Kidal.
Bon, la commune urbaine de Kidal, si lui n'est pas parti, je pense que tout n'est pas joué pour le moment. Et il faut faire extrêmement attention. Gao, Tombouctou, quand vous regardez ces 2 villes, l'État est déjà présent. Qu'est-ce qu'on va installer là-bas comme autorité intermédiaire? Quelle est la mission de ces autorités dans ces 2 villes où déjà il y a, l'État est présent dans toutes ces dimensions? L'armée est là-bas et l'administration est là-bas. Quant à Kidal, le fait que le drapeau, on a vu le drapeau malien, ça ne signifie rien. Si le Mali n'est, si l'administration malienne n'est pas à Kidal, on n'a rien fait. C'est ce qu'on nous a dit depuis que l'accord a été signé. Et l'accord, je le dis, je le répète, c'est un chiffon de papier que je n'ai pas adhéré. Je pense que la solution du Mali, ce n'est pas sur papier. Voilà.
Célia, je vous donne la parole dans quelques instants. Le temps d'écouter Mahamadou Kan de la radio Clédou justement sur ce sujet, l'installation des autorités intérimaires à Menaka, Kidal, Gao, Tombouctou pour lundi avec Taoudeni.
Oui, c'est vrai, c'était attendu depuis un moment. Ça a été attendu à Gao. On a vu les groupes armés qui occupaient le conseil régional justement pour pouvoir entre guillemets partager les gâteaux, ce qui est déjà opérationnel. Ok, et les éléments vont participer au Patrouille Mix au DDR. Nous avons la chance d'avoir ces éléments. J'ai pas des Gao qui me disaient que non, ils sont là-bas pour la population, des Gao vont défendre la population, etc. Mais après, c'est vrai que c'est un grand pas, comme l'a dit Célia. Mais moi, j'attends de voir, parce qu'il faut pouvoir concrétiser tout cela, comment, en donnant des moyens à ces autorités intérimaires, clairement, pour qu'elles puissent véritablement commencer le travail des terrains. C'est ce qu'on attend. Oui, c'est un grand pas. Kidal, Menaka, Gao, lundi, comme vous l'avez dit, Tao Déni et Tombouctou. Mais le plus important maintenant, c'est la mobilisation des fonds pour permettre à ces autorités de travailler.
Voilà. Merci Célia Dalméda du journal du Mali. On a vu des vagues de contestation dans certaines régions, Tombouctou et Gao notamment, où les mouvements signataires de l'entente du 25 janvier, CPA, CMFPR2, CGA et MSA ont contesté ces autorités intérimaires.
Oui, je voudrais, avant de répondre à votre question, Ousmane, revenir sur ce que le confrère Yoro disait tout à l'heure par rapport à la présence de l'État dans la ville de Gao et de Tombouctou particulièrement, où on vient poser les autorités intérimaires. Je pense que ça a été une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les populations, je ne parle pas des groupes armés qui sont contre, je parle des populations qui disent on n'est pas d'accord, pourquoi est-ce que vous venez nous mettre des autorités alors qu'on a déjà des autorités. Donc encore une fois, comme moi je disais qu'il faut observer pour voir comment ça va se passer dans les jours à venir, c'est justement de voir comment ça va fonctionner tout ça. Cette espèce d'échafaudage que nous sommes en train de mettre en place avec des maires élus qui sont là, sur lesquels on va venir superposer une autorité intérimaire parce qu'elle est inscrite dans l'accord, donc il fallait la faire, parce que les groupes armés l'ont posé comme préalable avant un retour entier de l'autorité de l'État. Bon, on va voir comment tout ça. J'espère que nous n'allons pas encore aller dans la réaction et que nous avons déjà prévu comment travailler ensemble avec ces groupes armés, avec, parce que quoi qu'on dise, ce sont des intérêts divergents qu'on a mis ensemble au sein d'une entité. Et ces intérêts divergents, quand ils ne s'entendent pas, ils nous ont montré comment ils le démontrent, ils se tirent les uns sur les autres. Donc, on va voir, et j'espère vraiment qu'un mécanisme est trouvé pour que, ensemble, et l'État, et les différents groupes armés qui se sont retrouvés au sein de cette autorité intérimaire, puissent travailler ensemble pour instaurer un minimum de quiétude, pour que l'économie puisse reprendre, pour que le social puisse reprendre. C'est cela qui est important pour les populations. Moi, je veux dire, les blablabla politiques, les gens ont besoin de manger à leur faim, de se soigner, etc. C'est ça qui est important. Donc, comment arriver à ce que ce dispositif qui est mis en place aujourd'hui soit effectif, efficace, efficient, pour ramener un semblant de vie correcte pour ces populations. J'ai l'activiste Fatouma Arbert qui a publié un très beau test qui dit mais il est difficile pour les populations de Tombouctou de retrouver à leur tête des gens qui les ont brimés, qui ont violé des filles, qui ont coupé des bras. Et c'est difficile pour ces populations. Maintenant, on nous demande de faire des sacrifices, d'accord. On voit Gao s'est tu à la demande d'une autorité religieuse. Gao s'est tu. Mais Gao, on la connaît. Et donc on attend et on j'espère vraiment que ce qui va se passer dans les jours à venir donnera tort aux inquiétudes des populations et que nous allons avancer dans le bon sens.
Merci Yoronso pour parler un peu de vos inquiétudes. Est-ce qu'un refus de ces autorités intérimaires dans certaines régions ne risquerait pas de mettre en retard l'application de l'accord et à rajouter d'ailleurs à la peine de population?
Non, je ne pense pas. Surtout les cas qu'on a cités, Gao et Tombouctou, ce n'était pas la peine d'installer des autorités intérimaires. Ce qui est de Kidal, ça c'est une équation très difficile qui est là depuis mai 2014. Jusqu'à présent, que ce soit la communauté internationale à travers la MINUSMA Barkhane, ne font rien dans ce sens pour que le Mali puisse aller à Kidal. Après ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à Kidal, lors de la visite de Mara, au moins après, quand même quelques temps après, l'armée et l'administration devraient être redéployées à Kidal. Cela n'a pas été le cas. On est toujours là.
Que justement, ces autorités intérimaires ne vont pas permettre ce redéploiement progressif de l'administration à Kidal.
Voilà. Non, je ne pense pas. Comme cela l'a dit, voilà les bourreaux qui sont à la tête de ces autorités intérimaires, difficilement ils vont imposer leurs lois sur la population. Difficilement. Quand vous prenez le cas de Kidal, certes, le monsieur Fagaga, il peut faire ce qu'il veut à Kidal, mais imaginez un peu l'armée à Kidal.
Il y a un représentant de l'État également, oui, le gouverneur.
L'armée à Kidal, hein, l'administration à Kidal, voilà un déserteur de l'armée qui a quitté Bamako depuis 2006 pour aller attaquer les garnisons de Kidal et de Menaka pour former une rébellion en créant l'alliance du changement du 23 mai. Depuis lors, il est à Kidal. Et c'est lui aussi qui a organisé l'attaque d'Aguel-Ok. Voilà ce monsieur, il a sur ses mains le sang des militaires maliens. Donc difficilement ce monsieur est représentatif. Est-ce que par rapport à la paix, qu'est-ce que ce monsieur peut amener comme paix? Difficilement, c'est le cas dans les autres régions. Donc il était bon de faire une large concertation autour des personnalités qui allaient diriger voilà, ces autorités
internes. C'est Almeida, souhaite réagir rapidement avant de la parole à Mohamed.
En fait, ma crainte, quand on parle de large concertation, grand frère, permets-moi de le dire, c'est qu'on n'allait jamais se mettre d'accord. Mm-hmm. Le drame, c'est ça. On est dans cette situation aujourd'hui parce qu'on a perdu du temps à dire, oh oui, tel n'est pas bon, on l'enlève, tel est bon, non, tel n'est pas bon, celui-là est d'accord, celui-là n'est pas d'accord. Et à un moment donné, il faut trancher. Maintenant, quand vous dites que est-ce que Fagaga est représentatif, peut-être que Fagaga est représentatif de Kidal. On n'aurait peut-être pas pu mettre Fagaga à Gao, mais peut-être qu'il est plus représentatif à Kidal qu'ailleurs. Et que, quoi qu'on dise, représentant une mouvance armée, et que ce sont les groupes armés qui ont obtenu la mise en place de ces autorités intérimaires. Bon, ma préoccupation, Ousmane, c'est surtout le après. C'est ça, c'est fait. Ils sont installés.
Parlons un peu du MOC, hein, le mécanisme opérationnel conjoint qui doit sécuriser les autorités intérimaires et qui n'est toujours pas opérationnel à Kidal, qui vient de démarrer timidement à Gao. Alors, il paraît que la sécurisation de ces autorités intérimaires au niveau de Kidal incombe à la CMA en attendant. Est-ce que Mahamadou Kane, vous pensez que c'est une bonne chose?
Bon, la question de savoir est-ce que c'est...
Est-ce que ça pourrait participer au rétablissement de la confiance entre les différentes parties?
Déjà, Kidal, quand on parle de Kidal, ça crée la polémique dans ces pays. Kidal, c'est pas une partie du Mali, permettez-moi l'expression. Jusqu'à preuve du contraire, après tout ce qu'on voit aujourd'hui.
Géographiquement, Kidal est quand même une partie du Mali.
Oui, bien sûr. Mais aujourd'hui,
on voit que l'hymne national a retenti à Kidal il y a deux jours. Il y a le drapeau du Malien qui a flotté à Kidal il y a deux jours.
Oui.
Pour 10 minutes seulement, c'est tout.
Oui, d'accord. Moi, ce que je vais dire concrètement, aujourd'hui, quand on amène. Comme il a dit, Akfaraga, le colonel Akfaraga à la tête des autorités intérimaires à Kidal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, oui, on est d'accord avec Yadagali. On est d'accord avec Yadagali parce qu'il est proche. Oui, parce qu'il est proche de Yadagali, parce que c'est un pion
l'un
de Yadagali.
L'un est CMA, l'autre est en sardine.
Oui, alors, bon.
Ils changent en fonction des intérêts.
Exactement. Ça dit qu'on va pas aller dans ce chemin groupe X, groupe Y. Mais clairement, entre les hommes, quels sont les liens qui les lient? C'est très important. Yadagali aujourd'hui, on sait, il rôde à Kidal depuis...
Si on dit qu'il y a un lien qui lie le général Gamou et Yadagali, ils ont été frères d'armes à un moment donné.
Mais c'est différent. C'est différent pourquoi? Moi, je suis de cet avis que aujourd'hui, Kidal, quand on met Hassan Akfagaga comme boss des autorités intérimaires, patron, ça veut tout dire. Mais ça veut tout dire. Oui, d'accord, je suis d'accord que c'est les autorités intérimaires.
Conseil régional, hein.
Oui, c'est les autorités intérimaires qu'on installe à Kidal. C'est l'État malien, comme vous l'avez dit. Mohamed Aguerre était là-bas, Diagouraga était là-bas. OK? On est d'accord avec tout cela. Mais disons-nous la vérité aujourd'hui, Kidal ne nous appartient pas. C'est No Man's Land. C'est la boîte au Pandore qui est ouverte une fois de plus. Ça veut dire quoi? Bienvenue à tous les petits trafiquants de drogue. Vous pouvez prospérer dans vos activités. Mais franchement, disons-nous la vérité. Moi, je pense que Kidal, Gao Menaka, je peux comprendre, mais Kidal, ne discutons vraiment pas de Kidal, quoi.
Madame, monsieur, je vous propose de prendre quelques secondes de pause.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Merci de suivre avec nous la revue de l'actualité de la semaine. On parlait justement de l'installation de structures intérimaires dans la région nord. Yoroso Kidal appartiendrait à qui finalement? Kidal jusqu'à présent est sous le giron malien.
Institutionnellement non, mais géographiquement Kidal fait partie du Mali, mais administrativement Kidal appartient aux trafiquants de toutes sortes, aux criminels et à la France qui sécurise Kidal pour que les Maliens n'y rentrent pas.
Est-ce que l'installation de ces autorités intérimaires ne permettrait pas, encore une fois, je vous repose la question.
Non, l'installation des autorités intérimaires, c'est du sur place, on ne bougera pas. C'est une manière pour ces gens d'avoir de l'argent, voilà, l'État va renflouer leur caisse. Et après, ils vont se révolter contre l'État et c'est tout. C'est une façon d'avoir de l'argent. Voilà.
Merci, Yoroso. La conférence d'entente nationale, est annoncée pour ce mois de mars sous l'égide du médiateur de la République, Célia d'Almeida, du journal du Mali. Est-ce que finalement, il est possible d'organiser cette conférence d'entente nationale ce mois de mars, étant donné qu'on n'a toujours pas de date et que les consultations continuent?
Ben justement, les consultations continuent, donc je ne suis pas dans les secrets des dieux, je ne pourrais pas vous dire oui ou non. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas annoncé de report. Les consultations continuent, il se passe des pas sur le plan politique qui permettent de penser que ceux qui au départ s'opposaient à la chose sont en train de se dire bon oui pourquoi pas. Par exemple les groupes armés qui avaient dit pas de conférence d'entente nationale tant que on ne fait pas l'installation des autorités intérimaires, voilà, c'est en train d'être fait, donc peut-être vont-ils participer à cette conférence d'entente nationale, donc peut-être un point d'achoppement est-il levé. Maintenant, en conférence d'entente nationale, pourquoi? Et j'ai envie de vous demander.
De quoi va-t-on parler, justement?
Et j'ai envie de vous demander, parce que nous, les Maliens, nous aimerions bien voir les termes de référence de cette fameuse conférence d'entente nationale. Savoir, qu'est-ce qui va s'y dire? Qui va y participer? Est-ce que moi, citoyenne lambda, je pourrais me lever et aller dans cette salle et écouter ce que les gens se disent, prendre la parole? On ne sait pas encore ce qui va s'y passer. Donc, on attend. On nous a dit que ça va être une occasion de mettre les choses à plat. Quoi? On attend.
Je ressors sur la conférence internationale. De quoi va-t-on parler au cours de cette conférence internationale? On sait que la question Azawad est déjà l'une des questions phares. Hein, le mot Azawad qui crée autant de polémiques. On sait que ça fera partie obligatoirement des débats, mais est-ce qu'il faut justement parler d'autre chose?
D'abord, cette conférence d'entente qu'on parle de nationale n'est pas nationale. On a mis le mot national, l'adjectif national pour tromper le peuple. Depuis 2012, le peuple a demandé les concertations nationales ou une conférence nationale pour débattre de tous les problèmes du pays. Cette conférence, c'est dans l'accord. Organiser une conférence uniquement
d'entente nationale. Hein?
Non, c'est pas national. Pour mon point de vue, c'est pas national.
Et accorder les violons. Et
non, c'est pas pour tout le peuple malien. Soyons d'accord avec ça. Les concertations ont été demandées depuis la chute du président Atiti. Jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui sont en train de réclamer ça. Une conférence nationale, en tout cas, ils ont différents termes. Certains débats, assemblées nationales, conférences, concertations. Mais ce qu'on veut organiser à partir de ce mois...
Mais disposition de l'accord, une conférence d'entente nationale qui est une des dispositions de l'accord.
Non, ce que les politiques réclament, qui est une conférence nationale un peu comme à la chute de Moussa Traoré,
voilà.
Qui est complètement différente de la conférence d'entente nationale.
Ça, c'est une... analyser les causes profondes du conflit, on a dit.
Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de priorité prioritaire au Mali. Tout est prioritaire au Mali. Que vous partez à Kaï, c'est le même problème. Vous partez à Ségou, c'est le même problème. Débattons tous les problèmes du Mali dans une conférence. Mais la conférence qu'on nous propose aujourd'hui, c'est uniquement une conférence de Kidal. Donner un contenu au mot Azawad, ça, tout tourne autour de ça. C'est pas pour le Mali. Déjà, il y a des réserves par rapport à cette conférence. Certains partis politiques ont déjà donné le ton qu'ils ne participeront pas. D'autres ont émis des réserves parce que ça ne concerne pas l'ensemble du Mali. Donc si ça ne concerne pas l'ensemble du Mali, je ne vois pas de raison pourquoi on organise ça. C'est uniquement pour Kidal et donner un contenu au mot Azawad. C'est dans l'accord.
Alors, Mahamadou Kane, l'accord parle de conférence d'entente nationale pour que, une conférence intermalienne pour que les Maliens mettent à plat les différends. Est-ce que vous pensez que cette conférence d'entente nationale prévue de disposition de l'accord pourra éventuellement taire les différends entre les Maliens?
Difficilement, très difficilement. Pourquoi? Parce que d'abord, on nous dit que c'est prévu pour ce mois de mars. Le script, comme on dit, on n'en sait rien pour l'instant. Il a dit « Azawad », c'est le mot qui nous revient. Bon, c'est bien, mais moi,
je préfère... Est-ce que la conférence va se faire uniquement autour du mot « Azawad » Non.
On n'en sait pas davantage, justement. Le contenu, Célia l'a dit. Justement, c'est-à-dire qu'on est dans un flou pour l'instant. On ne sait pas concrètement de quoi on va parler. Mais moi, je préfère qu'on traite cette question de façon éclectique, qui ce soit vraiment... inclusif. On parle beaucoup d'inclusivité ces derniers temps au Mali.
Inclusif jusqu'où?
Et pourquoi on ne va pas parler juste de l'Azawad dans une conférence d'entente nationale? Mais moi, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est très important. Il faut d'abord qu'on essaie de rétablir la justice pour toutes ces personnes qui se sont senties frustrées, qui ont peut-être perdu un père, une sœur, dont les pieds, les jambes ont été amputés.
La commission Vérité, Justice, oui, Réconciliation, d'ailleurs, est l'un des piliers.
Oui, mais qu'est-ce qu'elle fait comme travail aujourd'hui, cette CVJR? Qu'est-ce qu'elle fait concrètement?
C'est une partie intégrante, d'ailleurs, de la conférence internationale. Oui, oui. Mais vous avez parlé d'inclusivité, Mahamadou Kane. Est-ce qu'il faut l'ouvrir à quelqu'un comme Yada Gali ou Amadou Koufa, par exemple, qui sont maliens?
Ça, c'est une question qui a toute son importance. Moi, je pense qu'on en a déjà parlé ici. Yada Gali, en tout cas, de mon point de vue, ce n'est plus d'actualité. On va en parler certainement plus loin avec d'autres sujets le concernant.
Non,
ils sont à la base de tous nos malheurs aujourd'hui. Donc, je pense que c'est pas des personnes crédibles, justement.
Je
pense que c'est les personnes les plus crédibles parce qu'au moins avec eux, on sait à quoi s'en tenir. Moi, je suis du point de vue différent, Mahamadou Kane. Je me dis, avec Iyad, on sait. Avec Koufa, on sait. Avec les autres dont les noms ont été évoqués ici ce soir, on ne sait pas. Et c'est ça notre problème. On ne va pas discuter avec Iyad, c'est un terroriste. On ne va pas discuter avec Koufa, c'est un terroriste. C'est très clair dans notre tête. En tout cas, jusqu'à présent, c'est ce que nous avons dit et ce à quoi nous tenons. Maintenant, est-ce que la question de l'Azawad va être la seule question de la conférence? J'espère que non, parce que faire tout ce Bataclan pour juste aller discuter de la question de l'Azawad...
Mais quel est votre avis sur la question? De quoi devrait-on parler dans cette conférence internationale? On a parlé d'analyser les causes profondes du conflit.
On va analyser les causes profondes du conflit. Je veux dire, les causes profonde du conflit au nord du Mali qui ne concerne pas que Kidal, qui concerne tout le nord du Mali. Et aujourd'hui, on est jusqu'au centre, vous venez d'évoquer Koufa. Sont autant endogènes qu'exogènes, sont autant sociales que politiques, sont autant économiques qu'environnementales. Il se passe beaucoup de choses et j'ai l'impression jusqu'à présent que nous nous limitons à une lecture obtuse de la question, avec effectivement, nous sortons d'une crise, d'une guerre, avec nos sentiments, avec notre cœur quand nous parlons de cette question. Mais je pense qu'il va falloir, et je ne sais pas si la conférence d'entente nationale est le meilleur cadre pour ça, franchement je ne saurais pas vous dire, mais il va falloir à un moment donné, Kanga Dusubla, permettez-moi de le dire en Bambara, pour analyser froidement ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive et comment on peut faire en sorte pour s'en sortir et pour que ça ne nous arrive plus. Pour l'instant, nous ne sommes pas dans ce schéma. Nous sommes dans le schéma de poser des pansements sur des plaies ouvertes. Et un pansement sur une plaie ouverte, sans antibiotiques, sans rien du tout, ça gangrène et on coupe le membre. Et ça, Dieu nous en préserve.
Rosso, est-ce que cette conférence internationale, justement, ne devrait pas être l'occasion pour les Maliens de se parler franchement, de se dire la vérité toute crue?
Si ça ne concerne pas tout le pays, les Maliens ne peuvent pas se dire toutes les vérités.
Quand vous dites que ça concerne, elle se veut inclusive, cette conférence internationale.
Elle n'est pas inclusive.
On a parlé du
quand vous lisez l'accord, de la conférence. Quand vous lisez l'accord est très clair là-dessus.
Est-ce que justement la conférence internationale ne va même pas nous permettre d'avoir la même lecture de l'accord? Parce qu'on a parfois l'impression que les différentes parties n'ont même pas cette même lecture de l'accord.
Moi, mon problème, c'est quoi? Un pays ne peut pas tomber aussi bas à ce niveau qu'on ne puisse pas appeler toutes les sensibilités du pays pour repenser, pour voir ce qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché.
Non, toutes les sensibilités du pays, y compris les extrémistes religieux comme Amadou Koufa et Yadagali.
Ce n'est pas des extrémistes religieux, non, c'est des terroristes.
Non. Il y a une sélection dans cette affaire. La France a choisi ses hommes. Iyad, je préfère Iyad à ses gens. Au moins, Iyad n'a pas mis.
Quand vous dites ces gens, vous parlez d'eux?
Des gens du MNLA, celui-là. Et jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas le Mali dans leur cœur. Iyad, de 90 à maintenant, à partir de 90, quand ils ont éclaté la rébellion, il y avait quand même des questions sécessionnistes. Depuis lors, il a compris que l'indépendance de cette partie ne peut pas être acquise. Il a changé de fusil d'épaule. De 2012 à maintenant, il n'a jamais mis en doute l'intégrité territoriale du Mali. Je préfère ce monsieur aux gens qui font un double jeu. Ceux qui parlent de djihadisme ou terrorisme parce que ça gêne d'autres, c'est eux qui ont formé tous ces gens-là au djihadisme, au terrorisme, pour des intérêts inavoués. Lorsque ça ne va pas, ils les appellent djihadistes ou terroristes. Ils ont composé avec Ben Laden. Quand ils ont combattu les soviétiques, on ne parlait pas de djihadistes en ce moment. Mais quand l'accord, ils ne se sont pas entendus, maintenant ils ont appelé Ben Laden djihadiste. C'est la même chose qu'avec les Iyad aujourd'hui. Moi, je préfère un Iyad qui est pour l'intégrité du Mali, qui est pour des gens qui ne portent pas le Mali dans leur cœur.
Quelles sont les valeurs qu'on pourrait justement discuter avec Iyad, hein, qui parle de charia, qui remet en cause la laïcité.
Pourquoi les gens ont peur de la charia? Pourquoi les gens ont peur de la charia? Non. Pourquoi les gens ont peur de la charia?
Mais on est un pays laïque, on a une république. Le Mali est une république laïque, ressort.
Entre guillemets, ce qui nous impose la laïcité n'existe pas chez eux. Il faut que ça soit clair, ces termes-là, il faut qu'on les discute.
Mohamed Oukar, non, est-ce que la laïcité est imposée justement au Mali? Non.
Non. Non. Non, justement.
Laissez-moi, ces termes ont d'autres connotations. Nous vivons avec tout le monde ici. Il n'y a jamais eu de problème. Que tu sois chrétien, musulman, libre penseur, athée, je sais quoi. Il n'y a jamais eu de problème. Chacun de nous a pratiqué sa religion comme il veut. Mais lorsque ces termes sont venus, voilà qu'il y a des problèmes aujourd'hui.
Mais est-ce que ça ne va pas en contradiction
entre les gens?
Est-ce que ça ne va pas en contradiction avec ce que veut Yadagali dans Sardine?
Et quoi?
La charia.
Tout le monde vit sa foi, etc. Les libres penseurs et tout ça. On l'a expérimenté, cette charia-là, au nord du Mali.
Non. Demander aux populations du Nord qui étaient sous occupation, elles étaient plus à l'aise quand l'État était présent. Il y avait la sécurité au moins. Même s'il y a eu des châtiments et autre chose, les gens étaient à l'aise. Il n'y avait pas de raquettes. Voilà.
Oui, Mohamedou Kane, oui.
Moi, par rapport à ce sujet charia, franchement, de mon point de vue, ce n'est pas d'actualité. Ce n'est plus d'actualité. Moi, je pense que nous avons d'autres priorités. C'est extrêmement important. Parce que ces personnes qui nous ont vendu les rêves d'amener la charia au nord du pays, nous savons qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce que c'est des gens probes, clairement? C'est quoi leur comportement? Est-ce que c'est des fervents croyants? Non. Ma réponse est non. Et j'étais déçu de constater. Après, nous avons vu des images de ces soi-disant instaurateurs du charia et autres, mais non. Donc, encore une fois, ce n'est plus d'actualité. La charia,
on va laisser Célia Dalméda réagir. On va laisser Célia Dalméda réagir très rapidement.
Je voudrais réagir justement par rapport à ce que Yoroso a dit tout à l'heure, qui dit mais que pourquoi est-ce qu'on veut nous vendre la laïcité? C'est un concept venu d'ailleurs, et la définition que tu as donnée après, grand frère, c'est exactement la définition de la laïcité. Tout le monde vit ensemble, on respecte la foi de tout le monde, on laisse chacun vivre dans un cadre réglementaire, législatif, social, acceptable, bien entendu, mais chacun respecte l'autre, tolère l'autre. Mais la laïcité, c'est ça. On n'a qu'à laisser le concept à l'occidental. Prenons la définition dans le dictionnaire. La laïcité, c'est ça. Respecter ce que l'autre est, ce qu'il vit et comment il le vit. Et c'est comme ça que nous vivons au Mali. Maintenant, ce qu'on veut nous apporter, et là, permets-moi de le dire, ce qu'on veut nous imposer, comme charia, la charia, c'est quoi? C'est la loi. C'est tout simplement ça. Laïcité, c'est une loi. Charia, c'est une loi. Maintenant, c'est une question de religion. Est-ce que cette loi islamique, permets-moi de le dire comme ça, va permettre, comme tu as dit tout à l'heure, de laisser chacun vivre sa foi, qu'on ait des libres penseurs, qu'on ait des chrétiens, qu'on ait de... Non. Non.
Oui, mais...
Monsieur, on va prendre quelques secondes de pause et continuer avec les autres thèmes.
Action.
Un avis
et un commentaire.
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Vous suivez le forum de la presse du Studio Tamani. À présent, parlons de la fusion de certains groupes djihadistes présents dans le nord du Mali. Ils ont annoncé une fusion dans un mouvement appelé Jamaat Nostra Al-Islam Wal Muslimin. Et c'est Iyad Agali, d'ailleurs, de Ansar Dine, qui est pressenti pour diriger ce mouvement. L'information a été publiée par l'agence de presse mauritanienne Al-Akhbar. Alors, Ansar Dine et le Front de Libération du Massina ont annoncé avoir fusionné également avec Jamaat Nostra à l'islam ou à l'muslimine. Alors, Iyad Agali en serait le chef. Qu'est-ce que ça change dans la donne sécuritaire malienne déjà?
Ça va changer beaucoup de choses. Et je crois que l'accord va souffrir de cette alliance beaucoup. Surtout les questions des patrouilles mixtes. Et d'abord, les patrouilles mixtes souffrent de deux handicaps, la formation et le matériel. Alors que les groupes terroristes ou djihadistes sont déjà aguerris au combat. Donc, est-ce qu'on ne va pas connaître le même scénario qu'en 2012, que le Nord ne tombe sous la coupe de ces djihadistes encore?
Malgré la forte présence de soldats étrangers, les Nations Unies, Balkans.
Oui, mais est-ce que ces forces étrangères sont en train de faire un jeu correct avec le Mali? Je ne pense pas. La France, avec tous les moyens qu'elle a dans le nord, la force Barkhane, la MINUSMA, jusqu'à présent c'est des morts. Donc cette fusion vraiment n'augure rien de bon pour le Mali.
Mahamadou Kan, alors cette fusion entre les groupes terroristes opérant au nord du Mali, qu'est-ce que ça change dans la donne sécuritaire?
Vous dites fusion. Moi, je dis effet d'annonce. Attendons. Attendons. C'est très important encore. Parce que le contexte, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous sommes en train d'installer nos autorités intérimaires. Et c'est quoi l'objectif de ces groupes terroristes? C'est de nous dire finalement, vous verrez. Attention. Nous n'avons pas encore fini avec vous. Nous avons plus d'un tour dans nos sacs. Nous allons même former, vous allez voir, nous allons nous fusionner, nous allons... Attendons franchement de voir. Si c'est Iyad Agali, si cela s'avère vrai, dans les jours à venir, c'est clair que ça va porter un gros coup au processus de paix, comme il a dit, dans notre pays. Mais la question que je me pose encore une fois, comment ferons-nous pour mobiliser les fonds? On voit dans d'autres pays, on sait que Al-Qaïda...
Non, on sait comment ils fonctionnent, on sait comment ils sont financés déjà.
Mais est-ce que la mayonnaise va prendre? On parle quand même de deux groupes très importants qui opèrent déjà dans le nord du pays. Et ces derniers temps, toutes les attaques ont été revendiquées par ces groupes. Donc c'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai dit effet d'annonce, attendons de voir. Est-ce qu'ils auront les moyens vraiment de frapper encore plus fort, d'autant plus qu'on parle de plus en plus des patrouilles mixtes, des DDR. Donc nous sommes en train d'enclencher tout doucement le processus de paix. En tout cas, on va vers l'opérationnalisation de certaines choses qui nous tenaient beaucoup à cœur.
Alors c'est Léa d'Almeida du journal humain. Le général Salif Traoré, ministre de la Sécurité, a dit que ça ne changera pas grand-chose et que ces groupes travaillaient déjà ensemble et que ce n'est, comme Mahamadou Kan l'a dit, que l'effet d'annonce.
Oui, je pense que Kan a raison sur ce point. C'est vraiment, c'est de la communication. Ils sont très forts dans la communication. C'est des c'est des groupes qui, je sais pas qui les a conseillés comme ça, mais ils sont très efficaces en termes de communication et ils savent à quel moment parler pour que ça fasse mouche. Et c'est ce qu'ils ont fait. Nous sommes en train d'installer les autorités intérimaires. Donc, le peuple malien considère, malgré les oppositions, que c'est une avancée vers la paix et on vient nous dire attention, oh là là, vous n'avez rien vu. Le ministre a raison en disant effectivement qu'ils travaillaient déjà ensemble. C'est là que je tempère un peu ce que Kane disait. C'est pas qu'ils vont se mettre ensemble dans un camp quelque part et puis partir de là-bas aller travailler. Non, c'est qu'ils ont maintenant une communauté de cibles, si je peux m'exprimer ainsi. Et comme on l'a vu malheureusement avec les attaques de 2-3 individus, je me rappelle au Radisson, ça a été 2 revendications. En même temps, donc ça va être des choses comme ça, que Dieu nous en préserve, ça va être des choses comme ça où deux zigotos vont se lever dans leur coin, l'un de tel bord, l'autre de tel bord, et puis ils vont faire des choses ensemble. On a vu aujourd'hui qu'ils n'ont pas besoin de moyens colossaux pour agir. Avec une mitraillette, ils font un carnage.
Ils ont réitéré également leur allégeance au chef de Al-Qaïda, Ayman al-Dawahiri, au patron de Al-Qaïda au Maghreb islamique, et même à l'émir de Taliban afghan, le Mollah.
Je me permets de rebondir sur ça, c'est justement une des...
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une internationalisation et que les djihadistes de tous bords dans le monde coopèrent?
Al-Qaïda, c'est une multinationale. Et ça a toujours été comme ça. L'EI, c'est une multinationale. Et encore une fois, justement, cette annonce-là vient à un moment où l'EI est en train de souffrir en Irak. Donc c'est pour dire, à un moment, l'EI nous avait évincé, il faisait les gros bras. Voilà, nous, ACMI, nous subsistons. La preuve encore, nous avons du renfort. C'est, encore une fois, c'est une guerre communicationnelle, c'est une guerre de position, c'est une... Voilà. Et maintenant, c'est comme quand le bloc de gauche et de... Enfin,
Est-ce que dernière question sur ce... Dernière question sur ce chapitre du Rossois, est-ce que le Mali a les moyens de se sécuriser avec cette nouvelle donne?
Le Mali n'a pas les moyens. D'autant plus qu'on n'arrive pas à sécuriser le nord. Il y a le centre où il y a de sérieux problèmes. Les enfants ne vont pas à l'école. Il y a d'autres conflits qui sont là, entre qu'on est en train de transformer entre Pele et Bamana. Alors que c'est peut-être entre agriculteurs et éleveurs, tout le monde se trouve dans ces deux camps. Maintenant, on n'a pas les moyens. Et il faut que la communauté internationale quand même fasse un effort supplémentaire pour aider le Mali à combattre ces groupes terroristes et djihadistes.
Merci Yoroso. Le Mali, le pays le plus dangereux pour le personnel des Nations Unies. 32 agents des Nations Unies sont morts lors d'attaques délibérées dans l'exercice de leurs fonctions en 2016. 23 au Mali. Mahamadou Kane, est-ce que la souplesse du mandat des Nations Unies ne les expose pas finalement au Mali?
Oui, tout à fait. On l'a toujours dit, il faut un mandat robuste, donner des moyens conséquents aux forces des Nations Unies, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et nous voyons le plus souvent au niveau de New York des plaintes justement par rapport à l'amunissement, des équipements qui manquent. C'est vrai, l'effectif est là aujourd'hui, mais il y a un réel besoin d'équiper ces forces pour faire face aux menaces, aux attaques ennemies. C'est très lourd, le bilan sur 2016, vous l'avez dit, 23 morts, c'est beaucoup quand même pour une mission des Nations Unies. Je crois que c'est la mission la plus meurtrière
dans le monde, des Nations Unies.
C'est très important parce que nous avons un territoire immensément vaste, le Mali, et énorme. Le Nord, c'est je crois, 800 000 km², qui est presque hors contrôle de l'autorité de l'État malien. Donc, c'est vrai que les forces onisiennes souffrent beaucoup du point de vue de cet aspect que je viens d'évoquer. Et ça va être très compliqué avec toutes les annonces qu'on entend, et notamment...
C'est Léa d'Almeida du journal du Mali. On a parlé de robustesse du mandat, on a parlé de chapitre 7. Au finish, qu'est-ce que ça a changé pour le Mali?
Qu'est-ce que ça a changé pour le Mali? Pas grand-chose. Il faut d'abord que ça change quelque chose pour le personnel des Nations Unies qui se sente un peu plus en sécurité. On l'a dit tout à l'heure, la question des moyens. Bon, le nouveau secrétaire général des Nations Unies, qui est quelqu'un de très pragmatique, comparativement à son prédécesseur, qui était vraiment dans le jeu géostratégique, il faut trouver l'équilibre et tout. Guterres, c'est très pragmatique. Donc on espère que avec son arrivée, les lignes vont bouger. bouger. Il y a beaucoup d'annonces aussi des partenaires du Mali qui promettent du matériel, qui promettent des hommes pour renforcer l'instruction et tout ça de l'armée malienne. Parce que moi, au finish, on parle des Nations Unies, d'accord, mais ma préoccupation, c'est que l'armée malienne puisse être maîtresse de son territoire. Et on va renforcer la MINUSMA. Si la MINUSMA est là pour 20 ans, quel intérêt ? Il faut que notre armée puisse rapidement prendre le relais pour pouvoir faire face aux enjeux qui sont les nôtres et qui sont ceux du monde entier aujourd'hui. On ne va pas se voiler la face. Le Mali n'est pas une coquille perdue quelque part dans la mer. On est dans un monde aujourd'hui où la question de du terrorisme, la criminalité transfrontalière et tout ça, c'est global. Donc l'armée malienne doit vraiment très rapidement avoir les capacités. Il faut que nos efforts soient sur ça. La MINUSMA, elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, avec le mandat qu'elle a. Ce mandat-là, j'espère qu'on est en mars. Le secrétaire général des Nations Unies doit normalement présenter un nouveau rapport dans lequel il va faire des recommandations. J'espère que ces recommandations-là vont être suivies par le Conseil de sécurité et qu'il va demander, comme il l'avait promis, un mandat plus important pour cette MINUSMA, qu'elle puisse mieux se protéger.
Ça pourrait être quoi justement, hein, ce mandat plus important? Un mandat plus offensif, un mandat qui leur permette de combattre les groupes terroristes?
Ne serait-ce que pour poursuivre ceux qui les attaquent. Les pauvres, quand ils sont attaqués, ils ne peuvent pas courir derrière ceux qui leur ont tiré dessus. C'est quand même extraordinaire. C'est l'armée malienne avec ses petits moyens qui pourchassent les gars, qui font... C'est des gens qui sont là, qui sont formés pour ça, qui savent le faire. Ils ont des compétences dans leur pays. C'est pour ça qu'on nous les a envoyés. Et donc, il faut qu'on les laisse faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire garantir leur sécurité et la sécurité des populations. Au lieu de faire des patrouilles à Bamako avec des gros tanks, j'aimerais bien les voir au nord vraiment faire leur travail.
Alors, Yurosu, vous avez tantôt parlé du centre du pays, hein, le centre qui commence à déraper également. Est-ce que ce serait censé d'envoyer des soldats de la paix dans le centre du pays?
Il le faut. S'ils sont venus pour rétablir la paix au Mali, il faut les envoyer au centre pour mieux sécuriser cette zone qui est l'un des poumons économiques du Mali avec l'office du Niger. Donc c'est une zone qu'on doit faire extrêmement attention. Et comme les autres l'ont dit par rapport au mandat de l'ONU, à un moment donné, que ce soit le gouvernement ou le peuple malien, tout le monde avait souhaité que le mandat soit renforcé à l'image de la RDC où on a vu...
La RDC a dû attendre 10 ans ou plus, hein,
oui,
pour
mais la, au moins,
mandat très offensif.
Au moins, hein. Voilà, au moins le gouvernement a tapé du poing sur la table et en ce moment, l'ONU a révisé le mandat des forces en RDC. Et maintenant, les patrouilles, ils ont engagé le combat avec l'armée congolaise. Ce qui a permis au moins de libérer une bonne partie de la RDC. Ça devait être le cas chez nous. La MINUSMA opère isolément dans une zone où elle ne maîtrise pas. Il a dit, le nord est très vaste. Et l'armée malienne quand même doit être associée aux opérations que la MINUSMA doit faire. Et remobiliser l'armée malienne, donner les moyens à l'armée malienne. Et avec la MINUSMA, je crois que elles peuvent rétablir la sécurité dans le Nord.
Merci. Galanterie oblige, on va laisser le dernier mot à la dame, hein, Célia Dalmeida du Journal du Mali. Est-ce que ce serait censé d'envoyer des soldats de la paix dans le centre du pays où ça ne va absolument pas actuellement?
Je pense que déjà ça va avoir pour mérite de rassurer les populations, parce que tout ce qui nous remonte, c'est que les gens se sentent abandonnés. Les gens se sentent absolument abandonnés et cela renforce le pouvoir de ces groupes armés là qui sont là-bas, qui leur disent mais vous voyez l'État n'en a rien à faire de vous, voilà. Donc je pense que de faire renforcer cette présence militaire va déjà rassurer la population, de dissuader un peu. C'est pas en interdisant que les gens circulent à moto, le seul moyen de déplacement d'ailleurs qu'ils ont dans ces zones là, qu'on va résoudre le problème. Il faut qu'on fasse sentir à ces gens qu'on se rend compte qu'il y a un problème, qu'on veut y apporter solution et effectivement de mettre en place des forces armées conjointes, peut-être des patrouilles mixtes aussi là-bas.
MINUSMA,
armée malienne, j'en sais rien, et milice, j'en sais rien. Barkhane et Léonore. Donc, enfin, je sais pas. Mais franchement, il faut qu'on empêche l'armée de se déployer
dans le centre du pays aujourd'hui.
L'armée est déployée, mais comme on l'a dit tout à l'heure, avec des moyens tellement faibles. faible et encore une fois, dans une zone où en fait personne ne veut aller parce qu'on a concentré nos efforts sur un endroit et on a négligé quelque part où, ben voilà, les problèmes
s'est déplacé. Merci Célia d'Almeida. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette émission. Merci à vous, hein, chers invités. Ibrahim Aran Diallo a réalisé cette émission. Salim Diouara était à la mise en onde. Mamadou Ouattara à la régie vidéo. Je suis Ousmane Diadé Touré. Merci. Bon week-end.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri.
Halo de Mouni.
Chenne Beri. Sigi Kafoba.